Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, nutrition, aéronautique, entrepreneuriat, développement personnel, start-up, dans la tech, financement et j'en passe. Car ce qui m'intéresse au fond, c'est de comprendre les mécaniques de pensée de mes invités, leur processus de décision et de vous permettre à chaque fois de retirer au moins un enseignement de ces conversations. Le podcast se développe de plus en plus grâce à votre soutien et je voulais en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes tribulations, que ce soit sur les réseaux sociaux, le podcast bien sûr, ou encore via la news du gratin. Maintenant aussi via YouTube, tous mes invités me le disent, presque choqués franchement à quel point la communauté du gratin est bienveillante et positive. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur, comme ça leur fait plaisir aussi quand vous leur laissez des petits messages. Donc continuez à distiller cet état d'esprit autour de vous. Mes invités adorent ça et moi aussi, on adore vos retours. Donc continuez, vraiment un grand, grand merci. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Steve Burgraff, cofondateur des célèbres restaurants Big Fernand et depuis peu du restaurant Polichinelle. Vous pourrez le retrouver sur son site polichinelle-restaurant.com ou directement via LinkedIn. C'est tout simplement Steve Burgraff. Allez lui faire un petit coucou, il sera ravi, je suis sûre. Steve est une personnalité complètement à part. Je vous raconte notre première rencontre et vous allez comprendre. J'arrive chez Polichinelle pour l'interviewer, il est assis avec son chien près de lui, jusque-là rien d'anormal. Il commence par me mitrailler de questions, alors que c'est quand même moi qui normalement devais mener l'interview. Au bout de 2 minutes, on comprend tous les deux qu'on vient de subir une opération dentaire, figurez-vous, et il me dit flegmatique, est-ce que tu veux voir ma dent? Et hop, il la sort de sa poche. C'est véridique. 5 minutes plus tard, il m'emmène visiter son potager sur le toit de Polichinelle. Je vous plante le décor, vue sur tout Paris, des plantations à perte de vue et Steve qui gambade entre la sauge ananas et la fameuse plante au goût d'huître tout en me faisant un blind test horticole. Vous comprendrez que cette interview se devait d'être à son image, surprenante, décalée, audacieuse. Et j'ai donc décidé sur le pouce de changer complètement mon plan d'interview pour laisser place à une conversation très spontanée et je dois admettre un peu déstructurée. On a parlé de la formidable aventure Big Fernand avec plein de conseils pratiques sur comment dérouler un manuel d'exploitation de franchise, l'attention aux détails nécessaires dans le milieu de la restauration, le fait de ne pas penser comme tout le monde. On a enchaîné ensuite sur son nouveau projet, Polichinelle donc, un lieu magnifique situé sur les quais de Seine dans le 15e arrondissement à Paris, un lieu où le légume est roi et où la cuisine est de saison, locale, gourmande, le tout proposé sous forme de buffet. Donc vous comprendrez, très différent, on pourrait même dire opposé du concept carnivore de Big Fernand. Et j'ai particulièrement apprécié que Steve avoue que se lancer dans cette nouvelle aventure alors qu'il n'a plus rien à prouver au fond est un risque immense et que même lui, entrepreneur à qui tout réussit, sait ce que c'est d'avoir peur d'échouer. J'espère que cette interview vous plaira. J'ai pour ma part adoré notre conversation avec Steve parce que c'est vraiment un entrepreneur comme je les aime, bosseur, acharné, presque teigneux comme il dit, droit dans ses bottes. Il fait les choses parce qu'elles lui ressemblent et n'essaie pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il prend des risques et dit les choses telles qu'elles sont sans se soucier d'être politiquement correct. Un petit détail quand même avant de passer à l'interview, je dois m'excuser car la qualité du son, vous le verrez, est malheureusement nettement moins bonne que d'habitude. L'interview a été réalisée au restaurant Polichinelle justement avec un petit peu de bruit alentour et donc Steve, je pense, a placé son micro assez proche de sa bouche, ce qui explique que le son soit un petit peu saturé. J'ai hésité à publier l'épisode mais honnêtement, j'ai tellement aimé la conversation que j'ai pas pu me résoudre à ne pas vous partager ça, donc j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Steve Burgraff. Salut Steve, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Merci de m'accueillir ici au Polichinelle. Alors j'aimerais juste quand même pour les auditeurs faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est rencontrés pour situer un petit peu ton personnage. On a échangé sur le fait qu'on avait chacun perdu une dent il y a peu de temps et tu m'as d'ailleurs montré la tienne et elle est magnifique. Ensuite, on est monté voir ton potager et j'aimerais bien que tu m'en parles après parce que c'est un endroit qui est assez féerique. Et là, maintenant, on est en train de commencer cette interview au sein du Polichinelle, donc qui est le nouveau restaurant que tu viens d'ouvrir. Et c'est tout toi, ça, ce genre d'entrée en matière ou pas ?
Alors, je ne sais pas si c'est tout moi. Heureusement que je ne perds pas une dent toutes les semaines. donc, c'est déjà la première
ça
des
fait
choses.
Mal.
Non, j'aime bien recevoir les gens de manière naturelle. Donc effectivement, par le plus grand des hasards, j'avais ma dent dans la poche. Donc je trouvais ça important de te faire partager ceci. Quant au potager, il est quand même impressionnant et il est quand même très beau. Ce potager au-dessus de, effectivement, du restaurant Polichinelle. Donc je pense que ça valait le coup d'aller le voir.
Écoute, en tout cas, merci de m'accueillir. Je voulais commencer par te parler donc, justement de cette nouvelle aventure Polichinelle que tu viens de lancer. Je crois que ça a ouvert il y a moins d'une semaine. C'est déjà un carton. Je voulais simplement te demander, en fait, finalement, maintenant, tu commences à avoir l'habitude dans la restauration, puisque, donc, on va en parler après, tu as quand même eu un très, très grand succès avec Big Fernand. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu complètement changer d'état d'esprit, être très, très éloigné, en fait, du monde de la franchise, du monde de la restauration, on va dire, rapide, taxé sur du plus haut de gamme et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel a été ton processus tu vois, de décision pour te lancer dans cette nouvelle aventure ?
Alors d'abord, quand j'ai commencé l'aventure de Polichinelle, ça correspondait aussi à un style de vie. Donc je mange moins de viande, très clairement. Donc voilà, je ne sais pas de suivre une tendance, ça correspond en fait à mon style de vie. Mm. Je crois toujours au marketing de la vérité. Marketing de la vérité, c'est quand on use des choses qui font partie de son quotidien en fait, et le moins de viande fait partie de mon quotidien, donc déjà c'est le pourquoi de Polichinelle. Ensuite, effectivement, c'est un petit peu une nouvelle aventure pour moi, parce que là on est sur la restauration assise, plutôt haut de gamme, donc c'est aussi un nouveau challenge. J'avais fait un petit peu le tour avec Big Fernand, donc quand on reprend une entreprise, quand on crée une entreprise, c'est aussi parce qu'on a envie de nouveautés. Je suis toujours à la recherche de nouveautés, et c'est vrai que c'est un style un petit peu différent, donc je suis en plein apprentissage. Ce qui fait que déjà, je suis plutôt besogneux. Là, c'est besogneux x2.
Ouais.
Parce que d'abord, c'est une ouverture, donc il y a beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de choses à apprendre derrière.
Le fait que tu viennes finalement du milieu de la restauration, mais pas du milieu de la restauration assise, comme tu dis, tu dirais que ça a des avantages, des inconvénients ? Enfin, est-ce qu'il y a, par exemple, des choses de Big Fernand que tu as tout de suite voulu répercuter et implémenter dans le cadre de Polichinelle, de l'ouverture de Polichinelle ? À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, il faut que je fasse très différemment ? Quelle a été aussi là-dessus tes réflexions ?
Alors, pas du tout. Quand je redémarre une entreprise ou un restaurant, l'idée, c'est de repartir toujours d'idées neuves. Voilà, on peut se servir de son passé, effectivement. C'est une très bonne base qu'on appelle l'expérience. En revanche, je pense qu'il faut savoir faire table rase du passé, ce que j'appelle aussi balle neuve. Donc, j'aime pas trop dire « et j'ai fait ça chez Big Fernand » et « j'ai fait ça chez Big Fernand
ouais, ». Ouais.
Non, Big Fernand, c'est fini. Donc là, il faut se réinventer. Donc, pour se réinventer, il ne faut pas rester trop ancré dans le passé. Et donc, voilà. Donc, il y a deux, trois petites choses que j'ai retenues quand même dans l'expérience de Big Fernand. Mais j'aime pas du tout me référer au passé. D'ailleurs, je m'excuse à chaque fois que je me dis « tiens, je me souviens chez Big Fernand, c'était un petit peu pareil ». Je m'en excuse à chaque fois. Car je n'aime pas être l'homme du passé, je veux être l'homme des projets présents et surtout des projets futurs.
Super. Je vais quand même te parler un petit peu de Big Fernand, ensuite on reviendra sur Polichinelle. Parce que c'est une histoire, je pense que beaucoup d'auditeurs du podcast, en tout cas, connaissent de loin, ne connaissent pas encore de près. Donc j'aimerais bien rentrer un petit peu plus en détail. Toi, est-ce que tu peux me rappeler comment tu t'es tombé justement amoureux du concept de Big Fernand ? Enfin, comment tu l'as imaginé avec tes associés ? Comment est venue l'idée et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé alors que tu venais pas particulièrement du secteur de la gastronomie et que si je me trompe pas, c'est quand même très concurrentiel et que c'est pas des secteurs faciles.
Alors, comment est-ce que l'idée est née ? Ben, comme d'habitude, elle est née dans ma tête. Donc, une entreprise, c'est toujours quelque chose qui naît dans sa tête. Et puis après, ça devient un projet. Le projet devient une entreprise. J'aime pas trop le terme de concept, parce qu'une fois qu'il s'est sorti de sa tête et qu'on a commencé avec les premiers jours d'ouverture, il ne s'agit plus d'un concept. Ouais. Je trouve que c'est un nom qui est un petit peu galvaudé. L'idée était vraiment extrêmement simple. J'ai rien fait de très ingénieux. Et d'ailleurs, je le dis, je suis plus besogneux qu'ingénieux. L'idée, c'était de pouvoir servir un burger qui ait la qualité d'un restaurant, mais qui soit servi aussi vite qu'un fast-food, car je trouve qu'à l'époque, donc on est en 2012, je trouve que ça manque un petit peu de ce genre de service. Et par le plus grand des hasards, j'avais fait un petit peu des caméras cachées avant, parce que j'aime bien m'amuser. J'avais rencontré deux jeunes qui s'appellent Alexandre et Guillaume. Et comme je les trouvais, à la fois, j'avais beaucoup de plaisir à travailler avec eux, parce qu'ils étaient assez fun, mais à la fois, ils étaient aussi très sérieux. J'aime bien ce mélange du sérieux et du fun.
Ouais.
Je me suis dit que ça ferait des bons associés. Donc j'ai associé Alexandre Guillaume qui était tout jeune à l'époque. Et c'est comme ça en fait que c'est né. J'étais censé passer très peu de temps dans le restaurant au début. Je me suis dit, tiens, je vais quand même venir au début pour les aider un petit peu parce que c'était mon petit bébé. Bien, je ne suis jamais ressorti du restaurant. Voilà comment est né Big Fish.
Juste, je suis désolé, mais on va devoir revenir sur cette histoire de caméra cachée. Qu'est-ce que c'est en fait?
L'idée, c'est que je me suis toujours dit que je réaliserais tous mes rêves.
Ouais.
Donc derrière Big Fernand, on faisait un petit peu partie puisque c'était une année où je dis tiens, je rouvrirais bien un restaurant.
Mm-hmm.
Et moi, j'avais le siège social d'une autre société qui bossait dans le domaine de d'internet,
ouais.
Et qui était située au 79 rue du Faux-Poissonnière. Donc un soir de juillet, je remonte toute la rue du Faux-Poissonnière, je fais tous les restaurants. Il n'y avait pas beaucoup à l'époque.
Ouais, à l'époque, c'est autre chose. Hein.
Et un à un, je l'ai fait pour savoir s'ils veulent vendre, sachant pas encore très bien ce que je voulais faire. Non, mais je savais que dans mon idée, je voulais ouvrir un restaurant. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé au 55 rue du Faux-Poissonnière pour ouvrir le premier Big Fernand.
Mm-hmm.
Voilà, à l'époque, la rue du Faux-Poissonnière, c'était un no man's land.
Ouais, complètement.
C'est toujours encore un petit peu un no man's land, mais maintenant, il y a beaucoup de concepts, comme tu
ouais,
dis, qui existent là-bas.
Vous avez été quand même assez précurseur, parce que nous, moi, j'ai une boîte aussi, tu sais, je te disais, en joaillerie, nos bureaux sont juste à côté, et je me rappelle très bien de l'ouverture du premier Big Fernand, qui a été complètement précurseur dans cette rue.
Et donc voilà, et donc pour revenir aux caméras cachées, ça faisait partie donc des choses que je voulais absolument réaliser. Donc je rassure tes auditeurs et je te rassure toi, Pauline, pour te dire que personne m'a soutenu dans cette belle entreprise puisque je me suis autoproduit. Mais voilà, j'ai un petit peu d'aisance devant la caméra. J'adore faire des blagues, comme tu as pu le constater
ouais,
sur le potager.
Mais alors, c'était quoi concrètement ces caméras cachées?
Concrètement, en fait, on faisait des entretiens totalement bidonnés. Donc on avait des caméras qui étaient cachées dans des miroirs sans teindre. Et puis moi, j'étais le recruteur, bien sûr, et malheureusement, je n'étais pas un recruteur ouais. Très sérieux. Donc voilà, donc on est parti en délire divers et variés.
Avec tes deux amis.
L'histoire veut qu'on a réussi donc, à faire une dizaine de montages, plutôt réussi, mais que c'est le hasard qui a voulu ça, mais peut-être c'était prémonitoire. Eh bien, nous n'avons jamais retrouvé les bandes-son derrière.
Dommage.
Donc on a pu les écouter une fois, mais après, on n'a jamais retrouvé les bandes-son. Ce qui fait qu'immanquablement, j'ai dû me consacrer à Big Fernand
voilà.
Derrière, puisque mon rêve d'acteur devant la caméra cachée.
Mais si tu avais eu les mentons, tu serais peut-être devenu acteur.
Peut-être.
Quelquefois, ça aurait été une grande perte.
Quelquefois, c'est des détails. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot encore. J'aime toujours
écoute,
ça, les caméras
écoute,
cachées.
Écoute, bah, je t'aiderai sur l'audio alors. Sur Big Fernand, donc, tu te lances avec ces deux associés. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me disais, c'est que bah, finalement, tu ne m'as même pas parlé de compétences, mais tu m'as parlé de vous entendiez bien, c'est des gens qui rigolaient, donc plus un état d'esprit. Est-ce que tu peux quand même m'expliquer comment vous êtes un peu répartis les rôles et qu'est-ce qui était important pour toi justement dans cette association?
D'abord, tout le monde le sait, mais une entreprise en fait naît en fait avec une idée, mais en fait l'idée n'est rien évidemment sans les équipes qui déploient ces idées. Donc le caractère humain pour moi est fondamental, ça va même au-delà de l'entreprise. J'attache une importance très 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 grande à l'humain et je dois dire que je suis très touché par les gens qui font preuve de bienveillance et qui sont gentils. Et pour moi, c'est le critère d'embauche numéro un. Je me plais à le dire de temps en temps, la gentillesse est un accélérateur de business, quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les écoles. Mais quand on s'entoure de gens qui sont gentils, qui sont bienveillants, en fait, ça nous permet de faire passer les messages déjà beaucoup plus facilement. Et ça donne une telle énergie dans une équipe que très souvent, cela va au-delà des compétences. Donc les compétences, il en faut, c'est indéniable, mais ce n'est pas le critère numéro un pour moi d'embauche.
Mmh.
Car si la personne est gentille, volontaire, les compétences, en fait, s'acquièrent. A contrario, si fondamentalement la personne n'est pas bonne, elle a beau avoir fait les études qu'elle veut, elle a beau avoir le niveau d'intelligence qu'elle veut, on ne change vraiment pas les gens qui, la manière dont ils sont réellement. Donc voilà, donc pour moi, effectivement, c'est un critère très important et c'est un des critères qui fait que Alexandre et Guillaume sont devenus mes cofondateurs.
Et ça, tu le sens? Enfin, alors là, je te pose des questions même de conseils d'entrepreneur à entrepreneur. Tu le sens comment, en fait, cette bienveillance, cette gentillesse? Parce que je suis évidemment complètement d'accord et surtout, c'est une grande chance que tu arrives à t'entourer et que tu aies cette compétence de réussir justement à déceler ça. C'est pas si évident. Est-ce que tu as une antenne, des questions que tu poses, quelque chose pour réussir
non,
à tester?
Non, j'ai pas une équipe qui m'aide à filtrer les gens gentils et pas gentils. Non, je fonctionne beaucoup, beaucoup à l'instinct. Et comme j'accorde beaucoup d'importance à ceci depuis très longtemps, finalement, c'est devenu quelque chose d'assez assez facile en fait pour moi. Comme je dis, j'ai pas beaucoup de qualités parce que je suis plus quelqu'un de besogneux. En revanche, je suis quelqu'un d'assez instinctif. Et il ne faut pas longtemps pour déceler les bonnes et les mauvaises personnes. Donc voilà, je crois que je suis un petit peu aidé par ça. On peut se tromper de temps en temps,
ouais,
évidemment, mais en général, j'ai plus
un
bon
truc.
Flair.
Ouais.
Une de mes grandes fiertés, c'est qu'avec tous les salariés que j'ai eu chez Big Fernand et j'ai eu d'autres entreprises par le passé,
ouais,
je n'ai jamais eu un prud'homme. Jamais.
Ce qui
est assez éloquent.
Ouais, ce qui montre que ton flair est plutôt très bon. Et alors, comment vous étiez répartis les rôles justement avec tes associés? Toi, plutôt peut-être sur la partie justement humaine et eux sur développement, enfin, ou sur la gestion des opérations?
Alors, eux, ils faisaient tout et moi, je faisais rien.
mais t'as dit que t'étais besogneux.
Ah, zut, j'ai dit, oui. Alors, non, effectivement, au début, tout le monde fait tout. Donc, ouais. Là, je redémarre donc une nouvelle aventure avec Polichinelle. Donc, pour l'instant, je suis là du matin jusqu'au soir. Je veux savoir tout faire, à tous les postes, car il me permet de régler les détails. Et souvent, notre métier était une somme de détails. Donc, j'en ai besoin pour appréhender les gens qui travaillent avec moi, appréhender nos clients, appréhender les process. J'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les postes. Donc, au début, tout le monde fait tout.
D'accord.
Voilà. Et
beaucoup.
Puis après, en fonction de ses affinités, voilà, moi, bon, j'ai pas de grandes compétences dans tout ce qui touche au digital, par exemple. Donc, je m'en suis jamais occupé. J'aime bien me mettre à la place du client. Donc, je suis très souvent au cœur du système client.
D'accord.
Enfin, je n'y échappe jamais. Je n'ai pas envie d'y échapper.
Mmh, je comprends. Un truc qui m'a beaucoup impressionné avec Big Fernand, et là aussi depuis que je suis arrivée chez Polichinelle, ne serait-ce qu'avec ton storytelling, c'est pas que du storytelling, on sent que c'est sincère, mais le potager, tout ce que vous êtes en train de construire, c'est qu'en fait on a l'impression, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que quand tu lances un nouveau projet, il y a quand même déjà une idée très forte. Alors je vais pas dire le mot concept parce que t'aimes pas, y a ton petit chien qui fait des petits aboiements, mais il est mignon comme tout, t'inquiète pas. En fait t'as une... comme une plateforme de marque, tu vois, comme un concept avec Big Fernand, donc tu l'as dit en quelques mots, rendre le hamburger français haut de gamme accessible à des personnes qui ne sont pas forcément en restaurant. Là, avec Polichinelle, tu vas m'expliquer d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un invariant commun, une plateforme de marque très forte dès le début. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de futurs entrepreneurs qui se lancent ou d'entrepreneurs, justement, quand tu démarres une nouvelle idée, à quel point est-ce qu'elle est déjà ficelée dans ta tête avec tes associés?
Alors,
quelle est votre base de départ?
Alors, c'est toujours assez avancé dans ma tête. Donc voilà, parce que j'aime les éléments de différenciation. C'est un élément fondamental, quel que soit le business dans lequel on se lance. Il faut penser justement à cet élément de différenciation. Et il faut toujours penser à cet élément de différenciation vu du côté client. Donc ça, c'est déjà la règle de base et personne n'y échappe. On fabrique des savons, des boulons, de la joaillerie ou qu'on ait un restaurant sans viande, sans poisson comme chez nous. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Après, à la réalité, je n'aime pas trop donner une image au départ. Celui et celle qui vont donner l'image sont les clients.
D'accord.
Et j'insiste là-dessus.
Hyper intéressant.
Car tout l'univers qui existe autour de l'entreprise et du projet et ou du restaurant, par exemple, j'insiste pour laisser parler les clients et que cette image ressemble à ce qu'ils attendent en fait du produit. Donc, il faut surtout pas rester figé là-dedans. C'est super d'avoir des convictions au départ. Donc, je suis pour effectivement choisir une voie, une direction. Quand la direction est très très mauvaise, c'est qu'on s'est carrément planté sur la boîte. Mais quand il s'agit de réadapter, pour moi, le curseur qui, ceux qui adaptent, ce sont les clients.
Tu aurais des exemples d'un moment où ça serait passé, que ce soit dans le cadre de Polichinelle, dans une autre de tes aventures ou avec Big Fernand?
Polichinelle, c'est un petit peu trop récent, parce que
ça ne correspond
pas à ce que je t'ai dit, on l'a ouvert il y a une semaine. Mais je vais prendre Big Fernand.
Ouais.
Une fois, par le plus grand des hasards, on a utilisé le terme de hamburger.
Ouais.
Les clients finissaient par dire toujours hamburger, hamburger. Et puis finalement, notre slogan est devenu arrêter de bouffer des burgers, manger des hamburgers. D'abord, ça rimait. Et c'est vraiment quelque chose qui émanait en fait des clients. Donc vraiment, c'est l'image de l'entreprise derrière, c'est un mix entre les convictions de l'entrepreneur quand il a créé la société et cette variable d'ajustement qu'est le client. En fait, la vraie variable d'ajustement, c'est toujours le client, y compris pour l'image que tu appelles le storytelling. Voilà, moi, on m'a toujours dit, ah, c'est super, vous êtes fort en marketing, regardez Big Fernand. Même aujourd'hui, Polichinelle, hein, j'ai des critiques qui sont venues ici en disant, il est fort, Burgraph, il recommence avec quelque chose hyper marketé, etc. Le seul marketing auquel je crois, c'est le marketing du produit. C'est-à-dire que quand le produit est bon, la plus grande des forces derrière, c'est le bouche à oreille. Donc, je ne markete pas les choses de part. J'ai des éléments de différenciation, mais je ne suis pas enfermé dans un langage, dans un style. Et d'ailleurs, je n'y crois pas du tout. On va prendre par exemple un exemple concret qui est sur les us et coutumes dans le marketing. Moi, j'aime bien rigoler dans la vie. Donc, de fait, quand je parle de mon entreprise ou quand je parle à mes clients, j'essaie toujours de le faire un petit peu sur le ton de la rigolade parce que c'est mon style, c'est moi, c'est réellement moi. Maintenant, on a vu qu'aujourd'hui, le marketing de la blagounette a été poussé à outrance. Et d'ailleurs, je l'ai vu, nous, quand on formait les gens chez nous à l'époque chez Big Fernand, et je vais aussi le faire chez Polichinelle. J'aime bien quand ils ont un style décontracté, ils peuvent être très drôles, ça m'intéresse vis-à-vis du client. Mais des gens qui naturellement ne peuvent pas le faire. Et on leur demande plutôt, à défaut, donc, de rester naturel. Voilà, donc je crois aussi beaucoup à ces choses naturelles. Et donc ce marketing de la blagounette, pour moi, est devenu trop poussé. Et finalement, il y a des gens qui se disent « Ah, nous, notre style, c'est drôle et impertinent. »
Oui, il n'y a plus de différenciation.
Quand on dit « je suis drôle et impertinent », déjà, on ne l'est pas.
Oui.
Pour commencer.
C'est sûr.
C'est vraiment le début. Celui qui est vraiment drôle, il ne le dit jamais.
C'était important. C'est important. Enfin, je pense que tu le fais de manière spontanée, naturelle, j'ai l'impression, et que surtout, ça te correspond. Mais le fait de... J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de différenciation, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand vous avez lancé Big Fernand, le fait d'être drôle et impertinent dans le secteur de la restauration, c'était complètement nouveau. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et donc, d'ailleurs, vous l'êtes moins avec Polichinelle. Comment tu fais concrètement pour sentir ces tendances, sentir... Est-ce que c'est juste naturel? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, justement?
Non, c'est vraiment naturel. Effectivement, quand j'ai démarré Big Fernand, moi, j'avais une boîte qui faisait du B2B, donc pas toujours les trucs les plus marrants, qui étaient entre Internet et l'immobilier. D'être au contact des clients, ça m'a vraiment... D'abord, ça m'a énormément plu. Et ça m'a permis vraiment de me lâcher, entre guillemets, et de vivre comme j'aime vivre. Mais même quand je faisais du B2B, entre guillemets, j'étais un petit peu à part parce que je restais très, très naturel. Quand on est très naturel avec le client, tout passe. Mes premières journées que j'ai fait chez Big Fernand avec les clients, on était tous en peignoir dans le restaurant. On était à poil sous nos peignoirs. On a fait une journée qui s'appelait la rentrée, ça fait chier, parce que c'était le mois de septembre. Et on avait organisé une journée où les clients avaient le droit de nous insulter. Et les plus belles insultes, bon, passer leur commande, donc, et les plus belles insultes étaient récompensées donc, de déjeuner et de dîner gratuit pour que les gens puissent se défouler sur nous. Voilà, je trouvais ça naturel, mais tu vois, Polichinelle a un style différent. Donc, j'essaie de chercher le style de Polichinelle. Je ne fais pas de copier-coller. J'y crois pas du tout. Et je veux dire que c'est une des choses qui me déplaît le plus dans la période actuelle. C'est assez général ce que je vais dire, mais ça porte aussi sur la vie des entreprises et l'économie. La vie est une diversité, il faut que les gens restent différents. Il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont drôles, il y a des gens qui sont naturels, il y a des gens qui le sont moins. Eh bien, il faut que tous ces gens coexistent. Et je n'aime pas ce système de bande sardine où on considère qu'il faut se suivre les uns les autres. Donc voilà, donc Polichinelle, pour l'instant, il n'y a pas encore de style client.
Défini, tu vas le
mais
voir.
Mais ça viendra, on essaie déjà de faire des bonnes choses chez Polichinelle. Je crois qu'on a fait un beau restaurant, on a des vrais éléments de différenciation avec notamment notre potager sur le toit et notre système de buffet. Mais après c'est des choses qui évoluent, mais vraiment soyez naturel, parce que naturel ça permet toujours d'aller loin. C'est comme un couple ensemble lorsqu'ils se rencontrent, s'ils n'ont pas cette fibre du naturel, ça ne peut pas perdurer dans le temps. En fait on finit toujours par être attrapé par qui on est.
Bien sûr.
Et donc et c'est vrai aussi dans la vie des entreprises. Et en plus c'est quelque chose qui touche énormément les clients quand on le fait de manière naturelle. Et quand vous arrivez à toucher la corde sensible des clients, je leur dis, quand vous le faites naturellement, parce que vous êtes comme ça, croyez-moi, c'est assez, assez marquant en fait pour les clients.
Ouais, complètement. Donc, voilà. Tu me disais en plus, et ça me marque un petit peu, que tu étais très au contact des clients. Là, on le voit, tu es dans ton restaurant. Chez Big Fernand, j'imagine que tu étais aussi au restaurant, tu étais au contact du client. C'est quelque chose, je trouve, qui se perd un petit peu. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, quand ils lancent leur boîte, sont vraiment dans l'idée, comme tu disais, dans le concept. Et en fait, ne cherchent pas forcément à connaître leurs clients autant qu'ils devraient, à être en interaction avec eux. Ça, c'est quelque chose que vous avez poursuivi, j'ai l'impression, depuis le début. Est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement à quoi ça ressemblait, quoi? Enfin, en gros, c'est toi qui servais. Enfin, qu'est-ce que tu faisais pour comprendre tes clients?
Alors d'abord, je crois que c'est une erreur fondamentale. Hegel appelle ça la belle âme. La belle âme, c'est celui qui a un très beau livre dans la tête. Et en fait, il ne va jamais le coucher par écrit. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité fait qu'évidemment, le texte était très beau dans sa tête, mais quand on le couche, évidemment, ça ne ressemble plus à la même chose. Donc, il ne faut jamais rester une belle âme. Toujours. Il faut toujours se faire un petit peu mal. J'utilise l'expression auprès de ma femme pour expliquer le démarrage de Polichinelle où c'était dur. Donc, c'est dur. Je lui disais, écoute, c'est comme quand tu vas au sport d'hiver, que tu as les chaussures trop petites et qu'il fait trop froid. Quand je me réveille le matin, c'est pareil. J'ai les chaussures trop petites et il fait très froid. Mais ça, c'est la réalité. Et cette réalité d'être au contact du client, évidemment, est fondamentale. Alors, pour répondre de manière concrète, à chaque fois que je démarre une entreprise, je commence toujours à la base. Je veux vivre avec les gens qui constituent la base de l'entreprise et je veux vivre avec les clients. J'ai besoin de les entendre, j'ai besoin de les sentir. Car c'est eux qui vont me permettre de réajuster le tir et on a toujours besoin de réajuster le tir. Le 100% n'existe pas. On ne peut pas imaginer quelque chose et que dans la réalité, ça se passe 100% à l'identique. Il n'y a aucune histoire d'entreprise comme ça. Aucune. Même les belles. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment beau d'être
oui,
parfait? Je
ne
suis pas bien sûr. Donc voilà. Donc pour moi, c'est très important. Et donc effectivement, c'est pour ça que je suis ici de 6h30 jusqu'à 23h, quelquefois minuit, pour vivre tout ce que vivent à la fois mes salariés et les clients. J'ai besoin de les entendre de manière répétitive pour bien comprendre l'idée qu'ils se font du produit tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un élément essentiel et je trouve qu'on a de moins en moins d'opérationnel. C'est sûr que c'est très agréable d'être derrière son ordinateur.
Bah, c'est ça, t'aurais pu quand même,
Excel,
tu vois, avec ton expérience, t'aurais pu le faire. Enfin, je pense que, alors c'est tout à ton honneur justement, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un risque quand on a eu un certain succès comme toi de ensuite vouloir faire moins d'opérationnel. Donc je comprends que t'estimais que c'était absolument
c'est
nécessaire.
C'est le lot de beaucoup d'entrepreneurs qui redémarrent derrière, qui ne veulent pas passer par ça parce que c'est clairement difficile, c'est dur. Mais ça doit être mon côté protestant. J'aime bien la difficulté et la récompense derrière. Donc la récompense n'a de valeur que avec une vraie difficulté, avec une vraie difficulté devant. Donc je me frotte toujours à cette difficulté. Je prends plaisir à affronter cette difficulté. Je prends plaisir à résoudre les difficultés.
C'est un plaisir pour toi de gérer les problèmes.
Oui. Ouais. Parce que
si
je n'en gère pas, c'est que je suis passé à côté de mon boulot. Donc voilà. Après, il y a des styles de management différents. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très forts, qui délèguent ça énormément. Moi, je délègue, mais jamais tout de suite. Je ne sais même pas le faire d'ailleurs. Mais je vous dis, il y en a qui le font avec beaucoup de talent. Hein. J'ai un copain chez l'entreprise qui m'a dit l'esthétisme c'est de faire travailler les autres. Il a très bien réussi et voilà. Donc moi je peux le faire mais pas tout de suite. Et en plus j'aime bien montrer l'exemple. Ici tout le monde sait dans le restaurant que je mouille la chemise. J'arrive quasiment le premier. Je pars avec les derniers et je suis là pour tout faire avec eux. Donc voilà. Et puis je redis, c'est auprès des salariés c'est aussi quelque chose de fort. On vous considère pas du tout de la même manière.
C'est sûr.
Et puis voilà, donc c'est pour moi c'est vraiment un élément essentiel.
Est-ce que c'est une question un peu indiscrète, mais est-ce que tu as eu un peu peur quand même de te relancer dans une nouvelle aventure parce que tu as eu beaucoup de succès, tu as eu plein de boîtes. Enfin, moi à ta place, je t'avoue que j'aurais pas fait la fière.
Ouais. Très et j'ai toujours.
Ouais.
J'ai une boule au ventre, c'est-à-dire que j'ai très peur de l'échec. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui ont plutôt bien fonctionné, c'est le cas de Big Fernand, mais j'avais deux entreprises avant qui ont très bien fonctionné, je me dis c'est un petit peu une loi statistique. En fait, pour un entrepreneur de récidiver le succès, en réalité, il y en a très peu qui peuvent le faire. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'ils ont connu le succès, et donc le corollaire, c'est l'argent qu'ils en ont tiré, très vite, ils deviennent investisseurs derrière. Tu peux prendre la liste, elle est très longue, des gens qui ont réussi opérationnellement,
qui n'ont pas réussi à nouveau opérationnellement,
qui n'ont soit plus l'envie, soit plus la grinta, soit plus les idées, et qui finissent par investir sur les idées, la force de travail des autres. Moi, je n'aime pas ça, je ne sais pas le faire, mais j'ai très peur de ne pas réussir derrière. Et comme j'ai très peur de ne pas réussir derrière, je travaille deux fois plus. Voilà, ça me rassure en fait.
Tu dirais que tu travailles plus maintenant qu'à l'époque du lancement de Big Fernand ?
Je travaille de la même manière.
Mais
c'est sûr qu'aujourd'hui, je travaille plus que mes deux dernières années ou mes trois dernières années chez Big Fernand. J'étais beaucoup plus entouré, j'avais j'avais 400 salariés dans la boîte, j'avais un siège avec 45 personnes. Et c'est sûr, quand on a un DG, un DAF, une DRH, voilà, les problèmes, on connaît les problèmes, mais évidemment, ils ne nous impactent plus de la même manière.
T'as personne qui
là,
fait
écran. Je suis criblé de balles pour démarrer. Voilà, mais après, je retire les balles au fur et à mesure, puis après, je finis par les éviter, puis après, on ne me tire plus dessus.
T'as des moyens maintenant quand même de réussir à prendre les coups de manière un petit peu plus, tu vois, calme, réussir à... Tu disais que t'aimes bien quand même, t'aimes bien les ennuis, mais est-ce que t'arrives maintenant à mieux gérer justement le stress ?
Parce que j'ai toujours considéré que la vie ressemblait un petit peu à un jeu vidéo, avec des bonus, des jokers, et puis bah, quelquefois le piège, le chose-trappe.
Parfois le passage secret qui te permet d'aller jusqu'au niveau 10.
Pour moi c'est vraiment un jeu. Je trouve ma vie extraordinaire au sens littéral du terme parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire et pour moi c'est ça le sens d'une vie réussie. Je le dis aussi bien pour ma vie professionnelle que ma vie privée.
Donc voilà, donc pour moi c'est un élément, ouais, c'est vraiment un élément essentiel.
Je voulais te parler un petit peu de financement d'entreprise. Le secteur de la restauration, ça peut coûter très cher parce que bah, notamment quand on a eu avec Big Firm comme vous jusqu'à 50 restos, alors en franchise certes pour certains, mais...
Moitié-moitié, on avait 60 restos, on avait à peu près 30 restos en
France. C'est ça, donc c'est quand même des montants qui sont importants. J'ai beaucoup, beaucoup de personnes, quand j'ai dit que j'allais t'avoir sur le podcast, qui m'ont posé la question du financement. Et je sais que vous avez commencé, et je trouve ça génial d'en parler avec Vite Fernand, par vous autofinancer. Est-ce que tu peux m'expliquer ce choix? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait là peut-être sur Polichinelle? Et en fait, comment ensuite, justement, la courbe, si tu veux, de financement est arrivée?
Alors, donc c'est moi qui ai 100% autofinancé Big Fernand, donc avec l'argent que j'avais par ailleurs, parce que j'avais vendu d'autres, ouais. d'autres entreprises. L'idée, c'était, alors c'est un petit peu le même principe qu'il faut se faire mal en se frottant à la réalité. Il faut se faire mal aussi un petit peu financièrement, donc par l'engagement qu'on a financièrement, mais aussi... la mode est au lever de l'argent.
Bah complètement, c'est pour ça que j'évoque
Elles
le sujet.
Elles offrent un confort qui est totalement inutile dans le démarrage. Car, je le redis, il faut avoir un petit peu mal. Or, plus c'est confort, moins on a mal. C'est logique ce que je dis. Donc en fait, on évite une case qu'on ne devrait pas éviter. Donc quand on met son argent, quand on n'est pas financé...
Ton argent personnel
derrière,
en plus.
Quand, on met ton argent personnel, quand tu mets ton argent personnel, quand tu n'es pas financé derrière, quand tu ne vis pas sur une levée de fonds qui t'amène à moins bien considérer, par exemple, le niveau de dépenses d'une boîte, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Et pire encore, la jeune génération, à ce stade, considère que le levée de fonds est déjà un pas vers le succès et quelquefois une fin en soi. Mm. C'est une erreur fondamentale. Mm. Une erreur fondamentale. La raison d'être d'une entreprise, c'est d'exister et de gagner de l'argent derrière. Donc, à un moment, il faut gagner de l'argent. Et la nouvelle économie n'y changera rien. Tout le monde sera rattrapé par la réalité à un moment ou à un autre, quel que soit le secteur d'activité. C'est juste une question de temps, juste une question de moyens, c'est juste une question de taille.
Mmh. Aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner justement aux auditeurs qui écoutent, qui se posent des questions. Si jamais ils se disent « Ok, je veux créer une boîte, j'ai peu d'argent. » Pour toi, la voie de l'autofinancement, même quand on a peu de moyens et donc d'avoir des clients tout de suite et donc d'être rentable tout de suite et comme tu le disais vraiment c'est pas l'unique chemin bien évidemment mais je dirais que c'est vraiment quelque chose à considérer. Enfin, je comprends ton message qui est de dire qu'aujourd'hui il y a une mode de la levée de fonds, je suis complètement d'accord avec ce point. Est-ce que pour toi c'est uniquement spécifique au secteur de la tech? Est-ce que tu penses que dans le secteur de la restauration comme tu l'as vécu de la même manière en fait il faut essayer de trouver aussi des alternatives typiquement via de la franchise etc. Quel est ton avis là-dessus?
Alors d'abord, la première boîte que j'ai montée, donc j'avais 23 ans, et j'ai commencé sans argent du tout. Donc en fait, j'ai commencé avec les économies de mon salaire, et j'ai été salarié pendant 6 mois. Le seul but d'être salarié était pour moi de mettre de l'argent de côté, puisque j'avais rien. Donc déjà, oui, c'est possible. C'est très difficile de commencer avec zéro. Donc à un moment, il faut avoir économisé un petit peu, parce que tout coûte, parce que la création de la boîte, on peut se faire prêter un petit peu d'argent, ce qu'on appelle du love money. Bref, on a besoin d'un petit peu, mais on n'a pas besoin de tant que ça en fait. La force de travail, l'énergie, les idées, l'ingéniosité fait que finalement l'argent n'est pas si important, si important que ça. Maintenant, si on a envie de monter une centrale atomique, oui, effectivement, il y a un investissement qui est très important. Mais après, il faut aussi, quelquefois, savoir raison garder et calibrer ses envies d'entrepreneur en fonction de ses moyens. Typiquement... Je leur dis, il y a des choses qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'argent, l'industrie lourde, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi j'ai commencé par une société qui faisait de la restauration rapide livrée au bureau. Ben, pourquoi livrer? Parce que j'avais besoin d'un bouclard qui faisait 40 mètres carrés, qui ressemblait à rien du tout, qui n'était pas décoré. Voilà, et les clients, ce qu'ils avaient, c'était juste quelque chose de sympa dans l'assiette, et ça a très bien fonctionné. Mais ils n'ont jamais vu par quoi j'ai commencé. Et j'ai commencé avec 25 000 francs à l'époque. Ça ne rajeunit pas. Quand je peux parler en ancien franc.
Écoute, heureusement, ouais, mais en tout cas, je suis complètement d'accord avec ce point-là et surtout, notamment via le business model de la franchise, qui est quelque chose que peu d'entrepreneurs du monde de la tech connaissent, on peut quand même avoir aussi des alternatives. Et donc, tu me disais, vous, dans le cas de Big Fernand, vous aviez une part, en tout cas, de franchise. Ouais. Ça a été une décision qui vous a fait peur aussi, le fait de commencer à ouvrir votre
Graal? Non, pas du tout. Elle ne m'a pas fait peur parce que d'abord, quand je regardais la restauration, je savais que les grands groupes dans la restauration, à un moment, travaillaient sur un modèle mixte entre des restaurants propres et de la franchise. Ensuite, parce qu'on a commencé la franchise après avoir ouvert en propre.
Donc vous aviez combien de restaurants à l'époque en
propre ?
Trois. D'accord.
Pas beaucoup, mais voilà. Et ensuite, il y a une chose que j'adore, ce sont les process dans la vie. Et quand on ouvre en franchise, on est obligé de tout processer et de l'écrire. On fait ce qu'on appelle un manuel opératoire.
C'est ça.
En faisant un manuel opératoire, on finit par écrire tout ce qu'on fait. Et voilà, j'aime toujours, moi, j'aime bien me comporter comme un artisan, mais il y a le côté industriel derrière que j'aime bien. Et la franchise nous oblige en fait à ce côté industriel, très normé, très carré. Mmh. C'est même juridique, hein. C'est même une obligation, car on parle de transmission du savoir-faire. Mmh. Donc c'est quelque chose d'important.
Génial. Écoute, pour terminer l'interview, j'aime bien te poser des questions un petit peu plus personnelles, si ça ne te dérange pas.
Après l'histoire de la dent, est-ce que tu as d'autres choses à voir ?
Oui, tout à fait. Bah, justement, alors on va parler de moments un petit peu difficiles, si ça te va.
Ouais.
Tu m'as parlé, moi, donc là, de ta crainte quand même, parce que complètement légitime avec l'ouverture de Polychinelle. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des grands moments qui étaient soit des grands échecs, soit des grands moments de doute ou des grands moments difficiles dans ta carrière, que ce soit via Big Fernand ou autre, dont tu pourrais me parler ?
De ma vie professionnelle, donc ma vie
d'entrepreneur. Ça peut être personnel aussi, des moments en fait que tu accepterais de partager juste parce qu'en fait, ils t'ont appris quelque chose aussi et que tu pourrais partager à l'audience.
Ouais, bah dans ma vie perso, moi j'ai perdu mon beau-frère il y a 7 ans, qui j'étais très proche. Donc évidemment, ça nous touche, puis ça fait penser à plein de choses, qui gagnait très bien sa vie. Et donc voilà, j'ai toujours cette image de cette cave à vin qu'on partageait avec nos grands crus et qu'il a jamais bu. Donc voilà, donc moi je les bois les grands crus aujourd'hui. Donc ça c'est voilà, c'est pour le truc perso et professionnel. Pas tant que ça, parce que si je considère que les difficultés font partie du jeu et qu'elles apportent même un petit piment qui finalement apporte un petit peu de goût. Non, à la réalité, j'ai pas. On doute toujours, j'en ai toujours, hein, mais je veux continuer à en avoir.
Tu penses que c'est important le doute justement ?
Très important.
C'est le Pourquoi doute, ça ? C'est...
Parce que le doute est un élément fondateur de l'action en fait. Car c'est en doutant en fait qu'on arrive à bien calibrer en fait ses actions. Voilà, il y a un côté humble que j'aime dans le doute. Il y a un côté à l'écoute qu'on est obligé d'avoir quand on est dans le doute. Non, franchement, je ne vois aucun inconvénient dans le doute à partir du moment où il n'est pas systématique. Il faut quand même que les actions déroulent, hein, c'est un petit peu comme un feu rouge, hein, enfin le feu orange. Soit on accélère, soit on freine. Mais en tout cas, on se repose la question quand même, savoir si on va accélérer ou en freiner. Donc ça, c'est le doute. Par contre, après, c'est tout de suite suivi d'une action. On freine ou on accélère pour de vrai. Donc voilà. Donc non, j'ai pas vraiment eu de moments difficiles professionnellement. Non.
Une question que je voulais te poser quand même. Alors, je sais pas si c'était difficile, mais tu as évoqué à plusieurs reprises ton épouse et j'imagine que ta vie familiale devait quand même pas être si simple que ça avec ton emploi du temps ultra chargé. Là, tu me dis que t'es là de 8h du matin ou je sais pas quelle heure jusqu'à 23h le soir. Est-ce que ça a été un sujet pour toi après maintenant, ça fait quoi ? Ça fait 15 ans que t'entreprends 20 ans que tu entreprends, donc ça fait 20 ans que tu bosses, que tu es besogneux en plus. Est-ce que tu as dû un peu adapter ton mode de vie ? Est-ce que ça fait partie de qui t'es et c'est comme ça ?
Donc j'ai toujours beaucoup bossé. D'abord, je me suis marié assez tard, parce que j'ai 46 ans, je me suis marié à 43 ans. J'ai eu une petite fille qui a 10 mois.
Félicitations.
Donc ça c'est tout neuf pour moi.
Donc tu as choisi de lancer Polychinelle en même temps. C'est...
Ouais, bah après on choisit pas le moment. Voilà. Alors après c'est vrai que j'ai dit que j'ai un côté besogneux, donc j'ai besoin de me faire mal, mais j'aime bien aussi la récompense derrière. Donc voilà. Donc l'âge aidant et l'argent aussi aidant un petit peu. Bah, je me suis fait mes plaisirs. Donc j'ai des écuries de chevaux de course, j'ai une maison de campagne. Voilà. Donc je profite de ma maison de campagne. Voilà. Mais par période. Donc en ce moment effectivement. Je ne suis pas à la maison, on me voit ni le matin ni le soir, et donc je ne vois pas ma fille ni le matin ni le soir. Mais voilà, ma femme sait que c'est temporaire. Voilà. Alors quelquefois, je lui dis, en ce moment, c'est vrai que c'est... Elle me demande d'enlever le « en ce moment », je trouve un petit peu en trop. Mais là, bon, c'est particulièrement difficile. Mais bon, je ne voudrais pas... ce que je fais pour le lancement, je ne voudrais pas vivre tout le temps comme ça, parce que la réalité, ce n'est pas une vie. Puis bon, j'ai quand même travaillé, et puis bon, j'ai quand même gagné ma vie. Pour pouvoir me permettre
en profiter aussi.
Des moments de détente et puis en profiter. Parce que la vie n'est pas que le boulot. Hein. Je me suis toujours dit que je travaillerais pour m'arrêter de travailler. Je pense que c'est une formule qui restera sans suite. Mais néanmoins, je crois quand même à ce doux mélange de la vie privée et de la vie professionnelle.
Bon. S'il y avait quelque chose à refaire dans ta carrière, qu'est-ce que tu referais différemment ?
En différent, tu me poses une colle.
je sais pas. Non, j'ai aimé. Hein, j'ai tout aimé dans mon parcours. Après, si la petite chose peut-être que je changerais, c'est que si je devais revenir 20 ans en arrière, je me poserais toujours la question dès le début de savoir si le business que je monte me permettra d'être grand ou pas.
Et d'être en fait, grand ou pas.
Bah oui, c'est-à-dire en fait d'avoir un business qui peut vraiment devenir très très grand. Mm.
C'est vrai qu'on se pose pas toujours la question. On dit tiens, ça va marcher, etc. Mais parce qu'on a du mal un petit peu à voir la globalité. Et comme je vis pour mes rêves, en fait, bah pareil, c'est quand j'achète un cheval, c'est pareil, en fait. J'achète un cheval pour courir les grandes courses. Bah c'est un peu pareil dans le boulot aujourd'hui. Donc, j'aurais beaucoup voulu avoir cet état d'esprit dès l'âge de 20 ans.
Mm.
Ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose, mais en tout cas, je trouve ça important de l'avoir en tête. Encore plus à mon âge aujourd'hui. Hein. Je détesterais m'entêter dans un business qui peut-être ne fonctionne pas.
Mm.
Pendant 10 ans, usant ma santé, voilà, en me disant que ça restera toujours un petit business. Il faut que potentiellement le business puisse toujours devenir grand pour moi, toujours. Mmh,
je comprends. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aurais envie de partager à nos auditeurs? Bah, vas-y, c'est le moment. Tu peux en partager plein.
L'homme d'action est injuste envers son passé. Il ne reconnaît qu'un seul droit, celui de ce qui va être. Bon, j'aime bien, toujours. Donc, l'homme d'action tourné vers l'avenir. Le mieux, l'ennemi du bien, bien sûr. Je m'y réfère tout le temps. Je ne viens pas tout en tête, mais j'en ai quelques-unes.
T'en as un paquet.
Enfin, je ne me répète pas tous les matins, mais voilà, ça fait partie du petit des petits leitmotifs qui reviennent, en fait.
Ça marche. Encore quelques petites questions. Est-ce que tu peux me parler d'une de tes plus grandes peurs et de comment tu l'as surmontée? Pareil, ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau pro. Quelque chose vraiment où tu avais une crainte, alors peut-être de lancer justement ce restaurant, mais une crainte que tu aurais eue et que tu as finalement réussi à surmonter.
Mais tu l'as dit, je pense que à ce jour, c'est une de mes plus grandes craintes, puisque je sais que récidiver le succès, c'est très compliqué. Et comme je n'ai pas envie de rester que l'homme de Big Fernand, aujourd'hui, la plus grosse des peurs que j'ai, et c'est assez étrange d'ailleurs, parce que j'ai quand même des entreprises qui ont réussi par le passé.
Ah oui, c'est ça.
On se sent toujours un petit peu à l'abri. Parce que je suis plus à l'abri qu'avant, je me sens plus en danger, en fait. Voilà, d'ailleurs, une part psychologique là-dedans. Mais je ne crois pas avoir plus craint l'échec qu'aujourd'hui, qu'à ce jour.
Je comprends. Et pour justement pallier à cette crainte, tu t'es lancé et on voit que tu travailles énormément et que tu adoptes toujours ce style besogneux. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses que tu aurais appris de tes précédentes expériences où tu dis c'est évident que ça, il faut que j'en fasse? Alors, je ne te dis pas au niveau de la restauration spécifiquement, mais vraiment au niveau de la création de l'entreprise, de la manière dont tu roll out l'idée, peut-être de la manière dont tu t'entoures. Est-ce qu'il y a vraiment comme ça quelques grands principes que tu pourrais me donner qui sont pour toi vraiment les clés de ton succès?
Je progresse énormément là-dessus, c'est d'arriver justement à dédramatiser les problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les problèmes glissent sur soi, et c'est très important pour bien avancer. Parce que voilà, comme je suis très perfectionniste et je suis soucieux du détail, de fait, quand vous ouvrez une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est le cas de Polychinelle aussi, très concrètement, on peut très vite être encombré par ces détails. Et on finit par se dire ah, ça va pas, ça va pas, et la liste est très longue. Et elle nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris en fait avec le temps, à complètement prendre de la hauteur sur les problèmes. Donc je les vis pleinement, pleine face.
Mm-hmm.
Mais par contre, j'arrive très bien à les... je mâche les problèmes, en fait.
D'accord. Donc, et comment est-ce que tu arrives à doser entre il faut que ça soit parfait parce que j'ai une certaine exigence pour la qualité de mon produit et en même temps, il faut que ça glisse sur moi? Quel est le dosage, tu vois, l'arbitrage que tu fais?
Le dosage, c'est quand tu es arrivé à du presque parfait et tu sais que ça ne sera jamais parfait. Et en l'occurrence, c'est la différence entre l'artisan et l'industriel.
Ouais.
C'est que l'artisan, il est toujours derrière sa caisse, il est toujours derrière son truc et ce sera toujours parfait. Mais par contre, il est prisonnier de son travail.
Et de son
l'industriel,
temps.
Il fait travailler donc les autres. Et son travail est justement de limiter cette déperdition. Donc, je veux dire, moi, je considère que je fais le travail à 100%, quel qu'il soit, mais que celui qui va le faire derrière moi le fera plutôt à 98 ou 97. Le travail de l'entrepreneur derrière, c'est de pouvoir limiter cette déperdition justement à 97, 98%, sachant que celui qui est à 90% le passera à quelqu'un d'autre qui travaillera à 95%. Mmh. Si je lâche trop dessus, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris en fait avec le temps. Donc, j'accepte l'imperfection, mais de manière mesurée, parce que en fait, sinon on ne peut pas se développer.
Mmh. Tu dirais que les plus gros challenges qui sont devant toi là, avec cette nouvelle aventure, ça serait quoi?
Mon plus gros challenge, c'est de faire oublier que j'étais un vendeur de viande et qu'aujourd'hui je vends des.
C'est vrai que
je
n'y avais pas pensé, mais.
Je ne cuisine que de légumes. Que j'arrive à insuffler un style totalement différent de Big Fernand. Voilà, j'aimerais qu'on puisse reconnaître des qualités à Polichinelle, non pas ma petite personne, mais des qualités à Polichinelle qui sont très éloignées de tout ce que j'ai fait par ailleurs. Comme je l'ai dit, la vie est une diversité. La Polichinelle est différente de Big Fernand est différente de Polichinelle. Voilà, donc ça c'est mon grand challenge, je serais très fier de ça.
Bah écoute, je te souhaite le succès pour ça. La dernière question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est les livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont inspiré, peut-être que tu as aussi recommandé autour de toi. Est-ce que tu pourrais m'en parler, m'expliquer pourquoi ?
Bien sûr, je ne lis quasiment jamais de livres, donc je suis.
Ça peut être des films, hein, ça peut être autre
non,
chose aussi.
Non plus, j'ai pas beaucoup de.
D'accord, t'as pas beaucoup de temps.
Non, après, si je parle de mes films de référence, ça va faire peur à tout le monde.
Bah, vas-y, là, tu me titilles.
Ouais, ça va de la comédie, ça peut être un. J'aime bien Polly et moi, tiens. C'est un de mes films que j'adore, que je rigole toujours beaucoup devant. Ouais, j'en regarde
bien.
Les cochonneries.
Tu vois.
Mais des livres, je suis pas du tout un grand lecteur. Par contre, je suis un grand lecteur de presse et de presse économique.
D'accord.
Donc voilà, depuis que je suis gosse, je lis Les Échos. À l'époque, je lisais une revue qui s'appelait La Vie française, donc j'adorais déjà la vie des entrepreneurs. Et c'était mes idoles déjà à l'époque quand j'étais gosse. Donc voilà, donc moi ma lecture qui me prend beaucoup de temps c'est mes chevaux, donc je lis mon jour de galop tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Je suis tout ce qui concerne l'élevage, les courses, les échos que je lis quasiment tous les jours, les grandes revues professionnelles pour me tenir au courant de ce qui se passe dans la restauration, voilà, la Gazette de Drô parce que j'adore chiner, j'adore aller à Drô. Donc en fait je suis très occupé, déjà je suis très occupé tout court, et quand j'ai un petit peu de temps pour lire, ça tourne toujours autour des chevaux ou autour de mes passions derrière. Donc, je lis très peu de livres. Je ne me souviens même plus d'un livre que j'ai lu. Ça date d'il y a très longtemps. Donc, voilà. Donc, j'ai pas le temps, tout simplement.
Aucun souci. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ta passion des chevaux alors que j'avais lu ça.
Oui.
Alors, une dernière question cette fois, quand même, là-dessus, parce que ça me passionne. Tu t'arrives à y consacrer quand même un petit peu de temps, oui ?
Par période, en ce moment, non. Parce qu'en ce moment, je consacre tout mon temps à Polichinelle.
Mais donc t'acceptes comme ça de garder des plages complètement extérieures à ton business, mais tu les gardes pour des périodes dédiées quoi.
Bah d'abord il le faut pour commencer. C'est une passion business aussi. Hein. J'en achète, j'en revends des chevaux. Voilà, j'aime bien faire le petit commerçant. Hein. voilà, mais je me suis passionné. J'ai acheté mes premiers chevaux il y a 5 ans et bah, comme j'aime bien les détails, je suis un petit peu perfectionniste. Je m'y suis mis à fond. Donc je lis tous les jours. Je connais les pédigrés, les étalons. Je fais les ventes en France, en Angleterre. Je pars aux États-Unis au mois de novembre à Kinland. En fait, j'adore avoir plusieurs vies dans ma vie. En fait, quelquefois, les gens ne le savent pas, mais quand ils me voient aux chevaux, ils peuvent peut-être avoir quelquefois l'impression. Alors, ils savent que j'ai eu Big Fernand, mais quand on me voit comme ça, on pourrait croire que je consacre tout mon temps aux chevaux. On pourrait croire aussi que je consacre tout mon temps à Polichinelle. Mais j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Cul de Cochon, qui fait des charcuteries sans nitrite, où je passe aussi beaucoup de temps là-bas. Et je suis grand donateur et ambassadeur pour Gustave Roussy. Je passe beaucoup de temps aussi avec eux pour l'Institut de recherche contre le cancer. En fait, j'aime bien avoir plusieurs vies dans ma vie. C'est pour ça que je suis toujours pressé. Je suis toujours pressé parce que je vais toujours tout faire en même temps. Donc voilà, comme les journées n'ont que 24 heures, accessoirement, j'aime passer du temps aussi avec ma femme, ma fille. Bien quand tu décomposes, tu verras que les journées sont courtes. Donc voilà, c'est le plusieurs vies dans la vie qui fait qu'en fait, j'aime plein de choses à côté. Et les chevaux, évidemment, en fait partie. Voilà.
Et tu dirais que tous ces projets, cette boulimie de projet, justement, appelle plus d'énergie ou tu sens que ça commence à te peser un petit peu? J'ai l'impression que c'est plutôt boulimie d'énergie.
Ouais, boulimie d'énergie, une fois je suis fatigué quand même. Et une fois je fatigue ma femme aussi.
Tu dors un peu quand même?
Je dors pas beaucoup en fait. Une fois je fatigue ma femme aussi, une fois je crevais, elle me dit je suis claqué. voilà, mais je me sens. Alors ça, on l'a pas dit, mais tu aurais pu me poser comme question, Pauline.
Vas-y, justement, j'allais te demander quelle question est-ce que je ne t'ai pas posée qu'il aurait fallu que je te pose.
Quel âge pour entreprendre? Et je dois dire que j'ai adoré mon âge pour entreprendre. Bon, j'ai commencé très jeune, donc aujourd'hui je ne me pose plus la question, je serai toujours entrepreneur. Mais j'ai adoré l'âge où j'ai entrepris Big Fernand, j'avais 39 ans. Pourquoi? Car je me sentais très fort de mon âge. Et c'est sympa d'avoir son âge comme un allié, car j'avais à la fois l'expérience, à 39 ans, un petit peu, quand même pas mal, parce que j'ai commencé à 22 ans, et la fougue. Et quand tu mélanges les deux, en fait c'est comme si tu mélangeais le corps et l'esprit. Et le corps et l'esprit, quand ça fonctionne bien, ça fait mal. Et,
la preuve.
Ouais, et très clairement, alors aujourd'hui encore, je me sens, peut-être à tort, mais l'expérience, je l'ai, et je me sens encore la fougue. Donc, et d'ailleurs, je n'aimerais pas ne plus voir cette fougue. Je voudrais que les heures glissent sur moi. C'est vrai que c'est quelquefois un petit peu plus dur, hein, c'est une réalité. Mais je n'aime pas me le dire, et voilà, donc je continue à beaucoup travailler néanmoins. Voilà, donc fort de cet âge, je trouve que autour de la quarantaine, c'est un super âge pour entreprendre.
Complètement.
Avec un bémol, c'est qu'à 40 ans, j'ai lancé Big Fernand alors que j'étais déjà entrepreneur. Le seul bémol, c'est que je trouve que c'est un super âge parce qu'on allie fougue, expérience. Mais à 40 ans, attention, quand on est salarié, qu'on bosse dans une boîte, qu'on gagne sa vie, que sa famille compte un petit peu sur son boulot, même si sa femme travaille, qu'on a des enfants, qu'on a des crédits à payer, eh bien, quelquefois, le saut ne sera jamais franchi à cause de ce confort, justement, qu'on ne veut plus et qu'on ne peut plus perdre, quelquefois, parce qu'on a une famille à charge. Donc, c'est le seul bémol que je mets. Mais en tout cas, d'un point de vue de l'expérience et de la fougue, je trouve que 40 ans, c'est un super âge pour entreprendre, parce que normalement, il y a tout ce qu'il faut là où il faut.
Écoute, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie mille fois. Merci si jamais on veut te retrouver, on va sur le site internet peut-être de Polichinelle.
On va sur le site internet de Polichinelle Restaurant.
Que je mettrai en lien. On va admirer.
Le sens du détail.
C'est ça. On va te faire des feedbacks. Est-ce qu'on peut quand même te suivre quelque part sur les réseaux ou t'es vraiment pas du tout internet?
Je suis totalement absent des réseaux. J'ai un compte Facebook qui est ouvert. Je n'ai pris en ami que les gens qui sont dans les chevaux. En fait, c'est mon fil d'actualité.
D'accord.
Pour
donc
les,
c'est votre moyen, messieurs, dames, de stocker Steve.
Je ne suis pas du tout présent, je n'ai pas d'ordinateur depuis 15 ans. Même titre que je n'ai plus de bureau non plus physique.
Ton portable.
Mon ordinateur, c'est mon portable. Voilà, je vais le mettre sur le terrain. Donc, voilà.
Parfait, merci beaucoup.
Merci Pauline.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.